Vous écoutez, on lit pour vous.
Quoi de neuf du côté de nos petites bêtes? Un texte de Sylvain Sarrazin et Marissa Grosguet paru le 26 avril 2026 dans la presse. Ça bouge du côté de la jante canine, avec l'inauguration d'un nouveau balado sur les usines à chiots, une application éducative et un symposium inédit consacré au tout-tourisme. Protéger les maîtres et les chiots, par Marissa Grosguet. La découverte d'un élevage d'une centaine de bulldogs dans une maison cossue de Blainville en 2023 a été le déclencheur du balado qu'anime la vétérinaire Claudia Gilbert. Bêtise, le marché du chiot, offert sur la plateforme audio. Comment adopter un chien en bonne conscience et, surtout, en évitant les élevages nocifs? C'est la question à laquelle l'experte a tenté de répondre. En tant que vétérinaire, je suis souvent témoin de situations très tristes et ça me choque quand les gens se font avoir, se retrouvent coincés avec des problématiques qui auraient pu être prévenues, explique Claudia Gilbert au bout du fil. En n'étant pas assez informé, des gens bien intentionnés à la recherche d'un animal de compagnie se retrouvent parfois à l'adopter dans un élevage canin non éthique. Parce que je suis toujours en mode prévention dans mon travail, à ce jour, ce balado, c'est la meilleure prévention que je pouvais offrir. Car les conséquences de ces élevages où les chiens viennent au monde dans de mauvaises conditions sont grandes, autant pour les animaux que pour les maîtres. Le chien peut avoir l'air impeccable, mais des problèmes de santé apparaissent après, souligne Claudia Gilbert. Et même si tous les animaux peuvent avoir des problèmes de santé, ils arrivent plus tôt chez ceux venant d'un élevage et peuvent avoir un impact sur la longévité du chien. Et puis, il y a les troubles psychiatriques et comportementaux. Les tout premiers mois du chiot sont primordiaux pour son bon développement. On oublie souvent le facteur psychiatrique. Mais on a noté une hausse des cas d'agressivité chez les chiens à Montréal, souvent due à de la peur, souvent liée à un problème avec la manière dont ils ont été éduqués, dit l'animatrice et vétérinaire. Ces enjeux chez l'animal mènent souvent à la détresse des maîtres. Claudia Gilbert le répète. Dans la plupart des cas, cela pourrait être évité. L'adoption en refuge est, quant à elle, l'option idéale. Les usines à chiots, comme celle du cas de 2023, que le journaliste de la presse Tristan Péloquin avait exposé, sont plus répandues qu'on le pense. Il n'est pas toujours question d'un élevage de 100 chiots à la fois, mais ces usines ont en commun les conditions mauvaises, parfois misérables, dans lesquelles elles gardent les animaux. Plusieurs intervenants témoignent dans le balado « Bêtise », où l'on discute des lois mises en place ces dernières années pour mieux protéger les animaux. Et même si les lois ont évolué, les stratagèmes pour y échapper aussi. En fait, il y a tellement d'éleveurs canins non éthiques que ceux qui font les choses de la bonne façon doivent parfois fermer boutique, faute de clients, explique Claudia Gilbert. À la manière d'un balado de True Crime, la vétérinaire cherche ainsi dans Bêtise à comprendre comment se protéger de ces mauvais éleveurs et ainsi comment protéger les animaux. Une appli éducative pour Pitou. Par Sylvain Sarrazin. Avec la multiplication des adoptions de chiens, l'éducation de nos animaux est devenue un volet prisé, voire incontournable dans certains cas. Une toute nouvelle application québécoise, entièrement consacrée à cette fin, vient d'être lancée par la conférencière et chroniqueuse Rose Proux. Le chien Rose, intégralement en français, propose plusieurs programmes. Un bon chien de famille, un bon départ pour ton chiot, préparer le chien à l'arrivée d'un bébé, composé de capsules vidéo et de documentation, ainsi qu'une zone d'échange entre propriétaires de chiens. Les deux premières vidéos des programmes sont accessibles gratuitement, mais il faudra souscrire un abonnement mensuel, $12,99, pour avoir accès à l'ensemble des cursus. Spécialiste en comportement canin et fondatrice d'un centre à son nom, Rose Proulx vise à contrecarrer la surabondance d'informations, parfois contradictoires, qui circulent au sujet de la marche à suivre en éducation canine. C'était « Quoi de neuf du côté de nos petites bêtes? » Un texte de Sylvain Sarrazin et Marissa Grosguet, paru le 26 avril 2026 dans la presse.
D'enfance, de la ferme à la lune. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 3 avril 2026 dans la presse. La famille de Jeremy Hansen raconte comment l'astronaute en est venu à se passionner pour l'espace. Jeremy Hansen est le premier Canadien à voyager vers la Lune dans le cadre de la mission Artemis II qui a décollé le 1er avril 2026 pour un voyage historique de 10 jours. Il réalise ainsi un rêve d'enfance formulé à l'âge de 5 ans dans la ferme de ses parents en Ontario, après avoir vu une photo de Neil Armstrong. Quand Jeremy Hansen avait 4 ans, son grand-père a obtenu un permis de pilote et l'a amené voler avec ses parents Nancy et Gary. Un an plus tard, le petit Jeremy affirmait qu'il allait devenir astronaute et ses parents l'ont amené en vacances au Centre spatial Kennedy en Floride. Près de 45 ans plus tard, Jeremy Hansen est le premier Canadien à faire le tour de la Lune dans le cadre de la mission Artemis II. Jeremy ne s'en souvient pas, mais son désir de voler lui vient de son grand-père, j'en suis sûr, a raconté Nancy Hansen en entrevue avec la presse à son domicile d'Ingersoll, une ville du sud-ouest de l'Ontario. Quelques mois plus tard, les parents du futur astronaute ont acheté une encyclopédie et leur fils unique a insisté pour regarder les pages consacrées à l'aviation. C'est là qu'il a vu une image de Neil Armstrong sur la Lune et déclaré à 5 ans qu'il deviendrait astronaute. On a fait un voyage en Floride pour prendre des vacances, se souvient Nancy Hansen, mais surtout pour l'amener au Centre spatial Kennedy. Il était à la maternelle. Ensuite, il a vu les Canadiens sur la navette spatiale. Il a été très frappé par Chris Hadfield. Marc Garneau a été le premier Canadien à atteindre l'espace en 1984 et Chris Hadfield, qui a grandi dans la même région de l'Ontario que la famille Hansen, a effectué sa première mission spatiale en 1995, alors que Jeremy avait 19 ans. Des images marquantes. Je voyais des Canadiens dans la navette spatiale. J'aimais les sciences. Je me disais que tout était possible pour moi, a raconté Jeremy Hansen en entrevue. Un surdoué. Jeremy Hansen a grandi avec sa famille dans une ferme près d'Elsa Craig, en Ontario. Dès l'âge de 5 ou 6 ans, il démontait ses jouets pour les remonter. Dès que c'était électrique, il voulait savoir comment ça fonctionnait, dit Madame Hansen. En 5e année du primaire, son professeur a suggéré à ses parents qu'il apprenne à programmer les ordinateurs. Il était tellement bon que le directeur de l'école l'a chargé d'enseigner la programmation à d'autres professeurs, raconte Nancy Hansen. Son seul défaut, selon sa mère, était de trop faire confiance aux autres. Nous l'avons élevé pour qu'il ait une bonne fibre morale, qu'il ne mente pas, ne triche pas, ne vole pas. Il a toujours pensé que les autres faisaient de même. Des fois, il fallait lui dire « Je ne suis pas sûr que cette personne dit la vérité ». Généralement, c'était pour de petites choses, mais on ne voulait pas non plus qu'il fréquente de mauvaises personnes. Les Hansen ont continué à encourager les passions de leur fils. Gary Hansen a lu dans le journal de London un article sur les cadets de l'armée de l'air quand Jeremy avait 12 ans. Il en a parlé à son fils, qui a immédiatement voulu en faire partie. Le futur astronaute a obtenu son brevet de pilote de planeur des cadets de l'air à 16 ans. Pilote de chasse et titulaire d'une maîtrise en physique, M. Hansen a été choisi comme astronaute en 2009, mais n'a jamais participé à une mission spatiale. Il a été sélectionné pour Artemis en 2023. Calme, serviable et inspirant. Jeremy Hansen a 3 enfants, Devon, Ashley et Caitlin, qui tracent le portrait d'un père calme, serviable et inspirant. Quand elle revient à Noël chez ses parents à Houston, au Texas, Ashley Hansen va toujours faire un tour de Cessna avec son père. L'habitude a commencé très jeune, quand elle est partie en pension dans une école secondaire ontarienne avec sa jumelle, Caitlin. « Chaque fois, il me montre à piloter », dit la fille de l'astronaute canadien qui est maintenant dans l'armée de l'air, comme son père, et étudie au collège militaire de Kingston. « Il reste toujours très calme », dit-elle. « Des fois, il me dit, sans changer de ton, « Là, il faut que tu fasses ceci ou cela, parce que sinon nous allons descendre en vrille et nous allons mourir en nous écrasant. » Sa voix ne reflète pas la gravité de la situation. Pensait-il avoir peur lors du lancement ? Je pense qu'on aura beaucoup d'émotions tout au long de la mission, disait sa femme, Catherine Hansen, gynécologue obstétricienne en entrevue avec la presse en janvier, alors que la famille était en quarantaine avant la première fenêtre de lancement. De la joie, de la peur, de la tristesse, et probablement aussi de la terreur, quand la fusée va décoller. Les parents de l'astronaute Nancy et Gary Hansen ont fait le voyage en Floride pour assister au lancement. « Je fais confiance à la NASA. Je suis sûre que tout a été fait pour que la mission soit la plus sûre possible », dit sa mère. « Je serai contente qu'il puisse réaliser son rêve d'être astronaute et d'aller vers la Lune. » La barre très haut. Tous les pilotes de chasse se dévouent à leur profession. Mais Jeremy s'est toujours distingué parce qu'il met la barre très haut, dit son ancien commandant dans l'armée de l'air, Stephen Will. Il cite une implication enthousiaste dans des traditions martiales qui tranchent avec l'apparence de bon garçon de l'astronaute. Toute la famille Hansen partage le sérieux de Jeremy, selon le commandant Will. « Nos familles sont très proches », dit-il. Quand la femme de Jeremy a eu ses jumelles, elle a écourté son congé de maternité pour accoucher la mienne. L'arrivée de Jeremy Hansen à Ingersoll a marqué les professeurs qui l'ont accueilli en 3e secondaire et vice-versa. Quand il visite des écoles, il raconte souvent comment un professeur de sciences a cru en lui et l'a poussé à faire des projets très en avance par rapport aux autres élèves du secondaire, ce que confirme Jennifer Rory, une prof d'histoire responsable du club Artemis, qui organise des activités autour de la Lune et d'Artemis 2 cette année à l'école secondaire d'Ingersoll. Il était poli, fiable et déterminé, ce que j'attribue au fait qu'il était cadet de l'air dès l'âge de 12 ans, dit une de ses profs d'alors, Cynthia Armstrong. Les autres élèves pensaient probablement qu'il était un nerd, mais il avait beaucoup d'amis et pas d'ennemis, ajoute Becky Boys, qui l'a rencontré en 3e secondaire et est restée amie avec lui depuis. C'est une grande inspiration pour nos élèves, dit Madame Rowey. Nous sommes une petite ville de 11 000 habitants. Ça montre qu'on peut faire de grandes choses, même si on vient d'Ingersoll. Avant Jeremy Hansen, les Ingersolliens les plus connus étaient la hockeyeuse Ella Shelton et le père de Laura Secor. C'était Un rêve d'enfance, de la ferme à la lune, un texte de Mathieu Perrault, paru le 3 avril 2026 dans la presse.
Plongée au cœur du syndrome de fatigue chronique. Un texte de Laila Malouf, paru le 28 mars 2026 dans la presse. Avec Clara et là, enquête intime sur un mal invisible, l'animatrice et autrice Catherine Perrin se livre à une investigation saisissante et scrupuleuse sur une maladie méconnue. un essai qui nous happe dès les premières pages et qu'on dévore avec un sentiment d'urgence. Au Canada seulement, les personnes atteintes d'encéphalomyélite myalgique ou syndrome de fatigue chronique, EMSFC, se comptent par centaines de milliers. Une grande majorité sont des femmes, et on ignore toujours pourquoi. Tout comme il n'existe à ce jour aucun médicament ni cure miracle pour en guérir. Tout d'un coup, sans que l'on connaisse encore exactement les causes, ces gens très productifs sont arrêtés et deviennent dépendants des autres, explique Catherine Perrin. C'est ce qui est arrivé à sa nièce, Clara, la fille de sa sœur Agnès, qui vit en Allemagne depuis une quarantaine d'années. Catherine Perrin l'admet d'emblée au début de son livre. Au moment où le drame de Clara commence, elle faisait partie des sceptiques du syndrome de fatigue chronique. Je venais même de l'école de pensée qui disait « Je suis fatiguée, je vais me pousser un peu plus. Je vais aller faire de l'exercice, puis ça va aller mieux. Quand on bouge, l'énergie vient. » J'avais une espèce de construction mentale très productiviste, très achiever. Je pensais que quelqu'un qui était en fatigue chronique, c'était quelqu'un qui était un petit peu douillet, se souvient Catherine Perrin. Mais ma nièce était tout sauf douillette. C'était une exploratrice de la vie dans toutes ses dimensions. Impuissante, séparée par un océan et des milliers de kilomètres, elle a été témoin de la chute brutale de Clara et de ses rechutes successives, qui l'ont confinée à son lit et réduite à manger de la nourriture en purée, incapable de prendre soin de son fils en bas âge. C'est à partir de ce moment-là que l'autrice s'est mise à fouiller sur cette maladie. D'abord et avant tout pour soutenir sa sœur et l'informer de tout ce qui pouvait être fait pour aider Clara, puis rapidement avec un autre objectif dans sa ligne de mire. Je me sentais affolée de voir ma nièce que j'adore dans cet état et affolée devant les préjugés que j'avais, confie Catherine Perrin. Plus je me renseignais, plus je découvrais des choses qui me surprenaient. L'écriture du livre s'est imposée quand je me suis rendu compte que très peu de gens semblaient au courant de ce que je découvrais. Le but n'était pas juste de raconter l'histoire de ma nièce, c'était de mieux faire connaître cette réalité. De la recherche à l'intime. Catherine Perrin entreprend donc de vulgariser dans son livre le fruit de ses recherches et de ses discussions avec des spécialistes, comme le docteur Alain Moreau, la docteure Emilia Liana Falcone ou encore la docteure Arline Aude Bérubé, pour ne nommer qu'une poignée d'entre eux. Dans son souci de livrer une information juste et exacte, elle s'est assurée de faire valider par ses experts tout ce qui touchait à leur champ d'expertise. L'autrice relate également dans son livre ses nombreuses discussions avec des personnes atteintes, comme Cécile Damour, qui a d'abord été frappée par l'EMSFC, en 1979, et qui a trouvé, après des décennies de souffrance et d'errance, le moyen de se composer une vie avec cette réalité. À ce compte-rendu de la réalité de cette maladie, des études et des avancées scientifiques, qui heureusement s'accélèrent, note-t-elle, elle entremêle la vie personnelle de Clara et celle de sa mère, devenue proche aidante à temps plein de sa fille qui a aujourd'hui 38 ans. Au fil des pages, on se surprend à s'attacher à Clara. On passe de l'effroi à la peur, tout en mesurant avec consternation l'ampleur de ce qu'elle vit. Quand j'ai commencé le livre, j'ai dit à mon éditeur que ça se peut que ce ne soit pas un happy end du tout, que ça aille juste de mal en pis. J'ai vécu mon enquête dans toutes les phases de l'évolution de son état, explique Catherine Perrin. Rassurez-vous, après avoir traversé des moments extrêmement difficiles, Clara va beaucoup mieux. Mais Catherine Perrin prend soin de préciser que les approches qui peuvent donner des résultats encourageants chez certains patients n'auront peut-être pas l'effet escompté pour d'autres. Elle nous laisse découvrir dans son livre ce qui a aidé Clara à traverser le pire. En espérant que l'histoire de sa nièce puisse apporter un peu d'espoir aux personnes atteintes et à leur entourage, tout en levant le voile sur ce mal qui restait dans l'ombre depuis trop longtemps. C'était « Plongée au cœur du syndrome de fatigue chronique », un texte de Laïla Malouf, paru le 28 mars 2026 dans la presse.
Thank you. Est-ce que le Canada est favorable à la sortie des énergies fossiles? Un texte de Alexandre Shields, paru le 28 avril 2026 dans Le Devoir. Le Canada participe à la première conférence internationale pour la transition hors des énergies fossiles, une avenue reconnue par la science comme étant essentielle pour limiter les dérèglements du climat. S'il salue la tenue d'un tel débat, le gouvernement fédéral refuse toutefois de préciser comment il pourrait lui-même sortir un jour de ces énergies qui menacent aujourd'hui l'avenir de l'humanité. Au moment où le gouvernement Carney confirmait mardi son intention d'investir des milliards de dollars de fonds publics pour financer notamment des projets pétroliers et gaziers, la négociatrice en chef du Canada pour le climat, Jeanne-Marie Huddleston, participait à la conférence des délégués gouvernementaux de la première conférence pour une transition hors des énergies fossiles. Cet événement, qui se termine mercredi à Santa Marta, en Colombie, accueille plus de 50 pays dans un forum qui se veut une réponse aux échecs des récentes conférences climatiques de l'ONU, COP. Il faut dire, dans le cadre onusien, la règle du consensus a pour conséquence que des pays producteurs d'énergie fossile bloquent systématiquement les décisions qui permettraient à s'attaquer à notre indépendance aux énergies fossiles, responsables de 75 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. À Santa Marta, dans le cadre de cet événement organisé par la Colombie et les Pays-Bas, des pays, des scientifiques et des écologistes veulent donc envoyer un message en faveur de la transition, en plus de proposer des solutions concrètes pour sortir de ces énergies. Une de celles-ci souligne d'ailleurs une réalité répétée depuis des années par les experts du climat. L'arrêt de tout nouveau projet d'exploitation et de transport de pétrole ou de gaz. Plusieurs ont aussi profité de la conférence pour rappeler que le financement public des énergies qui menace de rendre le monde méconnaissable, invivable pour une bonne partie de l'humanité et en proie à des conflits perpétuels, est nettement plus élevé que celui consacré aux énergies propres. Les États dépensent 5 fois plus pour les énergies fossiles que pour les renouvelables, selon une analyse publiée lundi par l'International Institute for Sustainable Development. Ottawa salue le débat. Le Canada, qui mise pour sa part sur une croissance de la production pétrolière et gazière, mais aussi sur la construction d'infrastructures qui permettront le transport et l'exportation de ces énergies pendant plusieurs décennies, est-il favorable à la sortie des énergies fossiles? En réponse à cette question du Devoir, le cabinet de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Julie Dabrusin, a fourni une longue déclaration. Le Canada salue les efforts déployés par la Colombie et les Pays-Bas pour faire avancer ce débat dans le cadre de cette conférence et a une perspective précieuse à partager en tant que grand producteur de combustibles fossiles qui s'est engagé et continuera de s'engager à respecter ses obligations au titre de l'accord de Paris, à la décarbonisation et à l'atteinte de la neutralité carbone d'ici 2050. Les plus récentes données du gouvernement fédéral indiquent que le Canada est en voie de rater ses cibles climatiques pour 2030 et 2035, ce qui menace aussi l'engagement à l'horizon 2050, selon les experts et l'ancien ministre de l'Environnement Stephen Guilbeault. Le secteur pétrolier et gazier est en partie responsable de cet échec prévisible. Le gouvernement Carney rappelle pour sa part qu'il a toujours plaidé en faveur de discussions concrètes liées à la transition énergétique. La transition énergétique prendra une forme différente pour chaque pays, avec des défis et des opportunités variées en fonction de divers facteurs, fait cependant valoir le cabinet de la ministre. Ottawa admet que l'utilisation du pétrole, du gaz et du charbon est directement responsable de la crise climatique, mais le fédéral prend soin de préciser qu'il parle des énergies dont les émissions ne seraient pas captées. Le Canada reconnaît le rôle central que jouent les combustibles fossiles sans dispositif de captage de carbone dans les trajectoires mondiales d'émissions de gaz à effet de serre. En réaction à la déclaration du cabinet de Julie Dabrusion, Louis Couillard, responsable de la campagne climat-énergie chez Greenpeace Canada, insiste sur l'urgence d'un changement de cap. Mark Carney dit vouloir assurer la prospérité des familles canadiennes, mais continuer à injecter des milliards dans le pétrole et le gaz. C'est ignorer des énergies renouvelables moins chères qui protégeraient les ménages de la volatilité des marchés pétroliers. La transition juste vers les renouvelables, c'est plus de sécurité, de souveraineté et surtout plus de paix. Exactement le contraire de ce que nous impose notre dépendance aux fossiles. Santa Marta doit déboucher sur des engagements concrets du Canada en matière de sortie du pétrole et du gaz, pas sur de nouvelles entourloupettes qui visent à éviter l'ambition, ajoute-t-il. C'était « Est-ce que le Canada est favorable à la sortie des énergies fossiles? » un texte de Alexandre Shields, paru le 28 avril 2026 dans Le Devoir.